France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
C'est l'heure sur France Culture de retrouver le premier invité de vos matins d'été. Quel cap pour les économies et les économistes déboussolés. Ce week-end, lors des 19e rencontres d'Aix-en-Provence, sorte de mini Davos à la française, comme on l'appelle, réunissant économistes, historiens, dirigeants, chefs d'entreprise, ils ont appelé à renouer la confiance. Notre invité aujourd'hui, le chef d'orchestre et grand ordonnateur de ces rencontres, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, un think tank plutôt libéral, auteur de « L'avenir de notre liberté, faut-il démanteler Google ?» et quelques autres, paru chez Erol il y a 2 ans. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
En ouverture de ces rencontres, vous avez manifesté votre inquiétude face à la montée des populismes, face à la montée de la contestation, à la défiance des peuples. Pourquoi ? Est-ce que vous diriez que les élites économiques aujourd'hui n'ont rien à gagner dans cette crise de confiance ?
D'abord, la crise de confiance, ce que montrent les études, elle n'est pas particulièrement française, d'ailleurs, elle est mondiale, elle est très importante, très enracinée dans cette période, puisque on montrait en gros que 50% des personnes interrogées dans l'étude, c'était dans 30 pays, pour un vrai sondage, puisqu'il y avait 100 000 personnes interrogées, sont non pas en réalité en défiance par rapport à leur vie actuelle, mais très méfiant, très perte de confiance par rapport pour les années qui viennent, et selon la célèbre formule, très inquiète sur les générations, et est-ce que leurs enfants auront la même nature de vie que eux ont pu avoir. Donc, le sentiment que le monde est en arrêt de progression et plutôt dans une phase de régression.
Elle n'est peut-être pas spécialement française, mais elle s'est particulièrement manifestée en France, dans les rues, cet automne. Vous, en quoi ça vous inquiète ?
Le problème de la confiance... Alors, il faut tout reprendre. Le problème de la confiance, c'est... dans les faits, le fondement, c'est qu'évidemment, il y a une sorte de crise de la perception que les gens ont de la capacité des gouvernants de régler une série de problèmes qui est une convergence incroyable de difficultés. Vous savez, à la fois les difficultés climatiques, les difficultés d'inégalité, les difficultés de vieillissement, les difficultés de migration, les difficultés, tout ce qui en réalité, donne le sentiment aux uns aux autres que on est dans une sorte de situation qu'on a, un, du mal à conceptualiser. Qui peut dire ce que coûtera le changement climatique, et une impossibilité aujourd'hui de le gérer, d'avoir les moyens de le gérer. Et c'est par rapport à cela que, au fond, cette perte de confiance s'établit. Et l'idée que nous avons défendue, tous les membres du Cercle, puisque je suis en réalité que le représentant de ces 30 membres du Cercle, c'est l'idée que ce sont les... Pour établir cette confiance, pour renouer avec la confiance, ce sont pas des politiques isolées, c'est pas des sortes de rustines mises sur toutes les politiques, vous faites ceci, on rajoute un petit zeste de cela, mais c'est le système de valeurs sur lequel nous avons vécu pendant un demi-siècle qui est en réalité remis en cause, et c'est la création, le développement, l'émergence d'un système de valeurs nouveau qui permettra de rétablir la confiance. Il y a une sorte de préalable sur les valeurs partagées sur lesquelles nos sociétés vivent. Alors les intitulés restent
donc
les mêmes.
En fait, vous avez opéré un véritable examen de conscience ce week-end.
Géant.
Nous sommes réunis.
Géant. Le vôtre,
oui.
D'ailleurs. Le vôtre,
oui.
Le mien.
Le vôtre, le surtout. Tout. Mais vous envisagez un changement de modèle, du coup ? Ou juste un changement de valeur. Alors quelles sont ces valeurs ? Commençons avec ça, ces valeurs que vous remettez en question.
Elles portent les mêmes noms que précédemment, c'est-à-dire prenons l'exemple, multilatéralisme. Le multilatéralisme, il a été fondé en gros à Bretton Woods il y a 70 ans, avec cette idée qu'il y avait une gouvernance des systèmes. Alors il y a eu des modifications, ça a été remis en cause, etc., etc., etc. Mais sur le fond, l'idée que la gouvernance mondiale pouvait... pour une large partie, guider les décisions des gouvernements en matière de change, en matière monétaire, etc. Et cette vision multilatéraliste a explosé il y a maintenant peut-être 4-5 ans. Trump en est l'illustration, mais c'est là aussi, bien au-delà de la personnalité de ce président des États-Unis, c'est l'idée, au fond, que le multilatéralisme ne peut pas être, n'a pas été conçu pour régler ou gérer une situation dans laquelle deux grandes puissances se créent une lutte sans, qui n'a pas de fin sur le leadership du monde. Le multilatéralisme, c'était autre chose, c'est un espèce de pouvoir partagé avec le leadership américain. Tout ça est fini. Donc, vous voyez, cette solidarité, au fond...
On va rester juste, oui, parce que à l'issue de ce week-end, vous avez établi un certain nombre de recommandations dans un rapport et avec des mesures, des pistes extrêmement variées et différentes dans ce que vous préconisez aujourd'hui pour remettre la France sur les rails et renouer avec la confiance. On va rester juste sur ce mot de valeur pour éviter l'effet inventaire et catalogue, si vous le voulez bien. La valeur travail, vous l'avez réaffirmé, et pas simplement vous, le ministre Bruno Le Maire était présent aux rencontres économiques d'Aix. Voilà ce qu'il a dit à l'issue de ces rencontres.
Quand vous regardez la situation du pays, la situation des Français, nous nous sommes appauvris par rapport à beaucoup de nos partenaires européens depuis beaucoup d'années. Pourquoi ? Pour une seule raison, c'est que globalement, nous ne travaillons pas assez en France. Je dis pas ça pour ceux qui travaillent. Tous ceux qui travaillent, qui ont un emploi, travaillent beaucoup, se donnent beaucoup de mal, sont totalement engagés dans leur emploi et dans la mission qui leur a été confiée. Mais on rentre trop tard sur le marché du travail, on part trop tôt à la retraite et on a un niveau de chômage trop élevé. Nous voulons régler chacune de ces difficultés pour que globalement la France travaille plus et donc que les Français soient plus prospères.
Jean-Hervé Lorenzi, repenser la valeur travail en 2019, est-ce qu'on a encore raison de le faire, comme vient de l'évoquer à l'instant Bruno Le Maire, sur un plan quantitatif et non pas qualitatif ? Qu'est-ce que c'est la valeur travail pour vous ? C'est simplement le nombre d'heures travaillées, travailler plus pour la prospérité ?
C'est beaucoup de choses, mais c'est notamment le fait que le travail, c'est ce qui, depuis toujours, permet non seulement aux individus de subsister, de développer leurs compétences, de développer leur il y a un très joli mot qui est celui de prospérité qui avait été défini comme le permettre à un individu de s'épanouir tout au long de sa vie. Donc c'est un des éléments de l'épanouissement de l'individu, mais c'est bien d'autres choses. C'est un collectif, c'est pour ça la raison pour laquelle j'ai, quand vous savez, quand on dit le télétravail, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Non, c'est, il y a une sorte de relation humaine qui se crée à travers la manière dont les gens peuvent travailler ensemble, et cette valeur, en réalité, dépasse très très largement l'aspect quantitatif. Elle est d'abord et avant tout la possibilité, à titre individuel et collectif, de participer au fond à son propre épanouissement.
Mais c'est aussi la possibilité d'avoir un travail rémunérateur.
Bien sûr, bien sûr.
Se pose, et vous l'avez diagnostiqué, la question des inégalités en France, notamment. Dans son dernier rapport, l'Observatoire des inégalités a souligné que la France est, après la Suisse, le pays d'Europe où les riches sont les plus riches. Encore récemment, une note de l'agence Bloomberg a montré que les grandes fortunes françaises seraient aussi celles qui s'enrichissent plus vite que toutes les autres dans le monde au cours des 6 dernières années. Cette fracture sociale, cette montée des inégalités en France, quelle réponse pouvons-nous y apporter aujourd'hui ?
Alors, sur les inégalités, il faut être, je trouve, un tout petit peu plus précis que ce que
allez-y,
vous venez de dire.
Je vous en prie.
La réalité, c'est que les inégalités, ça se traite au fond au moins de trois manières différentes. Les patrimoines, ce que vous venez de dire. En prenant 0,001%, on ne traite pas l'ensemble des sujets des 99,999% de ceux qui continuent à vivre, qu'il y ait un phénomène très particulier français de cette espèce de point de l'iceberg qui est en train d'exploser en matière de patrimoine, aucun doute. Mais c'est un des éléments du sujet. Deuxième aspect, c'est la rémunération du travail et dans sa relation du travail par rapport au capital et par rapport au revenu du capital et donc par rapport à ce moment-là des millions de personnes. Et puis il y a le troisième sujet, c'est ce que nous appelons, enfin ce que tout le monde appelle d'ailleurs, l'ascenseur social, c'est la capacité pour l'individu de pouvoir au fond évoluer, se situer à un autre niveau dans l'existence. Ce que l'Observatoire a souligné à juste titre, c'est que le premier sujet était très révélateur d'un problème spécifique français, mais qui concerne peut-être 1000 personnes. Les inégalités en en France sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus larges, beaucoup plus difficiles à gérer que ces 1000 personnes à qui, même si vous repreniez cet argent, à ces 1000 personnes, on ne résoudrait pas le sujet. En revanche, au fond, la vraie manière dont, me semble-t-il, le sujet a été évoqué par l'ensemble des participants qui ont évoqué ces thèmes, c'est plutôt celui de la segmentation totale de sociétés comme les nôtres, pas que la société française. Parce que quantitativement, la société française dans ses revenus et pas la société de loin la plus inégalitaire après redistribution, c'est-à-dire après réintroduction des 32% de protection sociale d'ensemble de dispositifs sociaux qui interviennent. C'est surtout le fait de cette segmentation entre une société qui, au fond, j'allais dire, représente et qualifie les revenus importants, j'allais dire, la capacité de transmettre aux générations suivantes des situations qui sont à peu près équivalentes, et puis le travail, disons, non qualifié qui segmente, qui exclut, qui met toute une partie de la population en dehors, non seulement de l'aspect positif de la création de richesse d'un pays comme le nôtre, mais surtout interdit de sortir de cette situation. Ça, le sujet de fond, c'est ça le sujet de fond, parce qu'il est autrement plus compliqué qu'un problème de fiscalité. La technologie aujourd'hui gère développe cette affaire. Lorsque on vous dit, mettons, Amazon crée des emplois, formidable. Moi, bien fait. 800 emplois, on dit, c'est incroyable. Faut voir quels sont les emplois. Quand on dit 200 000 emplois sont créés en gros aux États-Unis par mois. Moi, j'ai regardé sur les 10 dernières années quelle avait été la nature des emplois. On s'aperçoit que jamais, depuis en gros un demi-siècle, le pourcentage d'emplois non qualifiés avait été aussi important. 40% de sans emploi sont en réalité sans qualification et sans possibilité même de vivre là-dessus.
La fiscalité, Jean-Hervé Lorenzi, c'est quand même à la fois une réalité, mais c'est aussi un symbole. Et on l'a vu dans la rue depuis l'automne et le début du mouvement des Gilets jaunes, avec la contestation qui s'est mise en place sur la suppression de l'impôt sur la fortune et l'allègement de l'imposition des revenus financiers. C'est une question importante, d'autant que ces chiffres, ces données de l'Observatoire des inégalités datent de 2016, donc avant ces réformes-là. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette fracture? Est-ce qu'il n'a pas raison, l'historien Patrick Boucheron, qui était présent à vos rencontres à Aix-en-Provence ce week-end, de dire qu'il faut maintenant poser la question de la confiance des élites aussi dans l'intelligence collective? Ce décrochage des élites, c'est aussi ce qu'a souligné Christophe Guillouis, le géographe, Jérôme Fourquet, le sondeur politologue, ils l'ont diagnostiqué avant lui. Comment raccrocher les élites aussi à ce que vit la majorité des gens dans le pays?
Alors, même chose, si vous dites, les deux questions que vous avez posées, en réalité, sont, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis remets l'ISF? Est-ce que notre conviction, parce qu'au fond, une fois de plus, les propositions qu'on a faites sont celles des 30 membres du cercle. En réalité, c'est peut-être bien, peut-être mal, on peut discuter tout, mais c'est évidemment pas l'ordre de grandeur du sujet de la perte de confiance. C'est pas comme ça que les sociétés évoluent. Il se trouve que nous sommes confrontés à une rupture absolue du fonctionnement de sociétés, dont personne d'ailleurs n'est réellement responsable. J'ai jamais bien aimé les boucs émissaires, les élites, les ceci et ceci. À un moment, non, mais je veux dire, c'est chacun sa position. Et donc, j'ai jamais considéré qu'il y avait en réalité des gens qui portaient les sociétés fonctionnent selon des règles. À un moment, elles fonctionnent plus ou moins bien. Je crois que l'idée de base qu'on a développée consiste à dire remettons au cœur du fonctionnement de nos sociétés le société française étant pas celle qui est la plus perturbée. Il y a eu certes des mouvements cet hiver et jusqu'à il y a encore quelques semaines, mais la société mondiale est perturbée. Elle est perturbée parce que le système de valeurs sur lequel nous avons vécu, si on prend l'exemple de la solidarité, c'est le plus caractéristique, elle est aujourd'hui malmenée, elle est non définie. Qu'est-ce que c'est que la solidarité dans une société comme la nôtre? Comme la nôtre, c'est quoi la solidarité?
Qu'est-ce que c'est?
C'est d'abord permettre à chaque individu, je reprends une définition à peu près rigoureuse, de permettre à un individu de progresser, de se développer tout au long de sa vie, de permettre en réalité à ce que la dignité des uns et des autres soit respectée. Ceci, touche des domaines qui sont des domaines plus larges que ceux de la fiscalité, pardon de le dire, mais la fiscalité ne résout pas tous les sujets, notamment celui de l'accueil des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont aujourd'hui peut-être les plus malmenés. Essayer de permettre que cette segmentation d'une société comme la nôtre s'éloigne et que la fracture sociale qui est alors très très profonde, bien au-delà des problèmes, j'allais dire quantitatifs et des problèmes financiers, puissent refonctionner, que notre école remarche, enfin, etc., etc. Ça touche bien d'autres domaines que celui de juste de savoir si on rétablit ou non l'ISF.
Pour Emmanuel Macron, la France a trois maladies.
La France aujourd'hui, elle a trois maladies. C'est d'abord un problème de défiance. Ce problème de défiance, je le mesure chaque jour. Et si je puis dire, nous le coproduisons chaque jour parce que les Français ont de moins en moins confiance dans leurs responsables politiques, de moins en moins confiance dans leurs élites, malheureusement. Et nous faisons de moins en moins confiance. C'est mauvais pour l'économie. Ensuite, il y a un problème de complexité. C'est que nous avons construit notre histoire par la norme. Nous adorons les lois. Mais lorsqu'on a trop de normes, lorsqu'elles s'accumulent, lorsqu'elles changent en permanence, eh bien c'est mauvais là aussi pour l'économie. Et c'est mauvais pour les plus faibles. C'est mauvais pour les plus fragiles. Enfin, l'une de nos maladies, c'est ce que j'appellerais les corporatismes. Et il y a des moments de l'histoire, de certains pays, de certaines économies, où les corporatismes capturent trop l'intérêt général. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Jean-Hervé Lorenzi ?
Je veux dire, je sais aussi que le soleil se lève à l'est.
Replacer les partenaires sociaux au cœur des négociations, il a été question de cela aussi à Aix-en-Provence ce week-end. C'est l'appel que vous avez lancé, estimant qu'il y a une captation de la discussion sociale au niveau de l'État. Alors là, en ce moment, il y a deux gros dossiers qui sont sur la table, celui de l'assurance chômage et puis celui de la réforme des retraites. Pourquoi ? Pourquoi les corps intermédiaires hors jeu, pour vous, Jean-Hervé Lorenzi, c'est dangereux pour la cohésion du pays ?
Moi, je pense que c'est la principale difficulté, au-delà des interventions toujours très intelligentes du président, c'est cette difficulté de penser les sujets, les thèmes, autrement que de manière, en réalité, très technocratique. C'est ça, c'est la difficulté que représente pour l'évolution assez normal dans nos sociétés. C'est normal qu'on discute du système de retraite. C'est normal qu'on discute du système d'assurance chômage. C'est normal qu'on discute de l'évolution de notre école. Enfin, tout ça est tout à fait normal. C'est pas j'aime pas le mot réforme. C'est normal que les évolutions, les transformations, finalement permettent à une société de vivre plus adaptée aux défis de son temps. Le problème, c'est que c'est aussi normal d'associer les partenaires sociaux ou, en l'occurrence, c'est-à-dire les personnes concernées. Quand je pense aux partenaires sociaux, je trouve d'ailleurs que l'expression est peut-être limitée dans l'esprit. On pense tout de suite au syndicat, mais on a vu que la COP21 a été faite par les ONG, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui portent des discours sur les thèmes qu'on vient d'évoquer. Le problème des retraites est un problème intergénérationnel. Au-delà de savoir si on met l'âge à 62 ans, 62 ans et demi ou 64 ans, le sujet clé, c'est de savoir si les actifs et les jeunes actifs ont à payer un dispositif qui concerne à hauteur de 14% les personnes qui ont pris leur retraite.
Alors c'est la question, du système universel, c'est la question aussi éventuellement de l'allongement de la durée de cotisation à 64 ans, mais le problème c'est que pour l'instant, les partenaires sociaux sont complètement dans le noir sur cette réforme. Il y a un haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, qui travaille sur ce dossier, qui va présenter ses recommandations dans 10 jours, mais comment comprendre que les partenaires sociaux soient absolument pas au courant de ce qui est en train de se jouer et ce qui va être annoncé dans une dizaine de jours?
C'est la raison pour laquelle nous avons été assez, clair sur ce thème. C'est les deux réformes, puisque la réforme sur l'assurance chômage n'est pas encore définitivement bouclée sur un plan de la discussion au Parlement. Si on ne réintroduit pas les partenaires sociaux, et en réalité, tactiquement, en termes politiques, on pense évidemment à la CFDT et au MEDEF, si on ne les réintroduit pas de manière satisfaisante, ces réformes connaîtront des difficultés. C'est-à-dire, c'est clair, c'est évident. La discussion que les partenaires ont pu avoir a consisté à dire qu'il y avait eu une captation, en réalité, par l'État, donc par des formes de technocratie, donc par une vision d'une société qui ne comprend pas des corps intermédiaires, des partenaires, des maires, des, tout ce qui en réalité fait vivre notre société, eh bien ceci conduira ou conduit à des, finalement, à des blocages et à des choses qui ne fonctionnent pas de manière satisfaisante.
C'est la mise en garde qui a été lancée à Aix-en-Provence par la ministre, l'ancienne ministre du Travail italienne Elsa Fornero. Vous y avez été sensible, l'idée de voir sur un temps long aussi ce qui est en train de se jouer et pas toujours sur un temps court comme ça se passe souvent actuellement. On va rouvrir cette discussion dans un bon quart d'heure ensemble. Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes notre invité jusqu'à 8h30. 8h15 sur France Culture, renouer avec la confiance. C'était donc le thème des 19e rencontres d'Aix-en-Provence qui se sont tenues ce week-end à l'initiative du Cercle des économistes et de son président, notre invité depuis 7h40, Jean-Hervé Lorenzi. Et dans l'actualité du week-end, cette nouvelle venue de Grèce, ce retour à la normale, comme certains commentateurs l'ont acté avec la victoire du parti de Kyriakos Mitsotakis aux élections législatives et le retour avec lui de la droite conservatrice au pouvoir.
Je suis très reconnaissant de ce résultat. Nous avons gagné avec une large majorité, ce qui était notre principal objectif. Nous avons presque atteint 40%, ce qui est un résultat incroyable vu le contexte de paysage politique fragmenté. Et je sens que nous avons un mandat solide pour mener à bien mon programme, qui est de faire croître l'économie, de créer plus d'emplois, mais aussi de s'assurer que le peuple grec se sente de nouveau en sécurité.
Avec cette victoire, c'est aussi, Jean-Hervé Lorenzi, la fin de la parenthèse anti-austérité qu'a voulu incarner Alexis Tsipras. C'est une victoire des valeurs libérales que vous défendez ?
Que je défends ? Non, bien sûr que non. Pas le sujet. Juste une parenthèse, d'ailleurs, le service d'économiste n'est pas du tout un think tank libéral. Il est extrêmement varié dans ses opinions.
Vous le définissez
comment ? Les économistes qui sont, j'allais dire, c'est une palette, c'est ça qui en fait la richesse.
Orthodoxe comme hétérodoxe ?
Orthodoxe ou hétérodoxe.
Il y a de tout.
Je sais pas, j'ai jamais bien su si ça voulait dire orthodoxe, hétérodoxe, mais en tout cas, palette d'opinions extraordinairement variée.
Quel signal nous envoie la Grèce, Jean-Hervé Lorenzi ?
Bon, je veux dire, sur cette histoire grecque, elle est en réalité, là aussi, pleine d'ambiguïté, parce que M. Tsipras n'a pas lutté contre l'austérité. Il a accompagné de manière, j'allais dire, très organisée, le plan qui lui avait été proposé. Et arrive aujourd'hui une nouvelle équipe, une espèce de vision vraisemblablement très naïve des sujets de redémarrage de l'économie grecque. Le fait est que ce qui compte, c'est que il y a eu en réalité, la fin de du plan d'aide, deux, le fait que la vraie négociation porte sur les conditions exigées, je crois jusqu'en 2022, d'avoir un excédent budgétaire avant le paiement des intérêts de la dette qui soit de 3,5%, qui est absolument géant. Et donc, c'est ça le fond du sujet. Ils disent qu'ils peuvent y arriver. Tsipras a joué, de mon point de vue, ce qu'il pouvait jouer. Il n'avait pas tellement d'autres possibilités, mais en fait, il a quand même, j'allais dire, accompagné cette austérité avec talent, mais il l'a quand même bien accompagné. C'est aujourd'hui que va se lancer une vraie négociation, me semble-t-il, qui n'est pas liée d'ailleurs à ce changement d'équipe gouvernementale, qui est une sorte de normalisation. Il y a toujours une droite, une gauche en Grèce, et ils se succèdent. Mais simplement, est-ce que la Grèce peut, à un moment ou à un autre, sortir d'espèce de vision et cette impossibilité qu'ils ont d'avoir autre chose que cet excédent primaire qui est hallucinant. 3,5%, ça signifierait pour nous, ça signifierait, j'allais dire, de couper la plupart des dépenses publiques qui permettent à un pays de vivre.
Mais le cap qui avait été fixé par la Troïka, le modèle que la Troïka a défendu, cet équilibre budgétaire, ce retour de la compétitivité, ce frein aussi à l'inflation, ça c'était un bon modèle, c'était le bon cap à suivre pour restaurer la confiance, ou renouer avec la confiance en Grèce, comme vous le dites ?
Non, bien sûr que non. Je veux dire, la manière dont ça a été traité n'était pas une bonne manière. La réalité, c'est qu'il y avait à la fois des problèmes grecs évidents. Je veux dire, le fait que les gens payaient pas d'impôts, enfin, ces histoires sont connues. Et en réalité, c'était les gens les plus aisés, les armateurs, l'église, enfin, tout ça a été surréaliste. Et par ailleurs, l'idée que finalement une politique économique consiste à mettre un pays, j'allais dire, dans des conditions de difficultés incroyables, des hôpitaux qui fonctionnaient plus, enfin tout ça était effrayant. Si, donc c'est deux sujets qu'il faut bien séparer. Un, il y avait évidemment des réformes à faire, et deux, c'était une méthode qui a été extrêmement brutale pour le peuple grec, et qui a été en réalité mise en œuvre par Tsipras. Donc, j'allais dire, c'est pas un changement majeur de politique qui est aujourd'hui en cours. C'est en réalité une normalisation. La droite.
L'arrivée de Mitsotakis, c'est pour vous une normalisation. Ça va pas constituer une rupture. C'est un retour à la normale, comme
on dit. Non, la rupture, c'était il y a 10 ans. C'était la rupture, c'était le plan qui a été imposé et la manière dont ça a été fait. On aurait dû le faire avec 3 éléments. Le premier, c'était consister effectivement à essayer de rationaliser notamment les circuits fiscaux qui étaient quand même inacceptables. Deux, ne pas mettre le pays, la Grèce, dans les conditions dans lesquelles se trouvait le peuple grec. Et troisième aspect, renégocier les conditions dans lesquelles cette dette devait être remboursée. Sur ce plan, d'ailleurs, le FMI et Madame Lagarde ont été les plus en avance. C'est l'Europe qui a été la plus stricte et la plus, la plus pressante sur les obligations du peuple grec.
Voilà, Christine Lagarde, qui aurait voulu être des vôtres ce week-end, mais elle n'a pas pu, et qui est attendue maintenant à la tête de la BCE, qui va incarner une continuité ou un changement pour vous en arrivant là, à ce poste-là.
Continuité, évidemment. L'idée qui est nouvelle, la rupture, il faut toujours bien voir où se situent les ruptures. La rupture, c'est plutôt celle de mettre une personnalité qui a, j'allais dire, un cursus, une caractéristique plus politique que technique. Draghi a été vraiment un économiste tout à fait étonnant. Draghi, c'est un prof d'économie, hein, donc il avait cette caractéristique, et Madame Lagarde n'a pas cette caractéristique-là. Elle est plus politique. Maintenant, penser un instant qu'elle va changer, en tout cas à court terme, la trajectoire menée par Draghi, je n'y crois pas du tout.
Vous avez défendu à Aix ce week-end une Europe des projets contre une Europe de l'austérité. Quel type de projet peuvent aujourd'hui ou devraient se nouer au sein de l'Union européenne?
Alors, là aussi, les mots, il faut être précis sur les mots. Il y a l'Union européenne, il y a la zone euro, il y a cette idée qui, de mon point de vue, alors là, c'est plutôt à titre personnel que je m'exprime, s'imposera, c'est-à-dire cette idée que c'est une Europe à la carte, il y a des pays qui ont envie de faire. Vous avez des pays qui sont producteurs, des pays qui sont consommateurs des mêmes biens. Ils ont évidemment pas les mêmes stratégies. L'idée de base qu'on a eue, c'est que ce qui nous attend, c'est des bouleversements, notamment sur le marché du travail, géants. Sur l'automobile, la chimie, vont connaître des années extrêmement disruptif, si on peut employer, avec des suppressions d'emplois massives, avec pas compliqué, hein, je veux dire, si vous passez à l'automobile électrique, il y a en gros la moitié de la fabrication d'automobiles qui disparaît. Donc tout ça est très très important, et donc il faut que l'Europe, un peu sur la méthode de la batterie, mais c'est d'abord homéopathique, et deuxièmement c'est vraiment un sujet qui est déjà perdu, mais sur tous les sujets qui sont devant nous, celle de l'hydrogène, celle des moteurs hydrogène, celle de tout ce qui en réalité, j'allais dire, permet de penser, développer, créer de l'intelligence et de la richesse dans nos pays, que tout ça soit mis sur la table, pas de manière technocratique comme c'est fait. Le plan Juncker était très bien, mais il faut le multiplier par 5 ou 10. Il faut donc, j'allais dire, beaucoup de souplesse, beaucoup de travail entre les pays qui souhaitent travailler ensemble, et pas imposer à tout le monde, les 27, d'y aller ensemble, et se saisir de tous les sujets qui feront le monde économique de demain. Une des propositions, un des trucs qui est très malin aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la DARPA, c'est-à-dire cette agence en réalité qui est sous couvert de dépenses de recherche militaire, en réalité irrigue tout le dispositif de recherche dans toutes les universités partout. Et nous avons imaginé que c'est ça qu'il fallait le faire en démarrant par du franco-allemand, parce que c'est la meilleure manière de d'agglutiner, pas de partir en disant les 27, parce que ça on y est pendant dans 20 ans, mais deux, trois pays se mettent d'accord et puis à ce moment-là, ceux qui souhaitent y participer, y participent.
Et il faut créer dans tous les domaines nos propres géants européens, dites-vous. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté technologique, a assuré le ministre Bruno Le Maire ce week-end lors des rencontres d'Aix. Souveraineté politique, il ne dit pas de souveraineté économique. Hein. Sur cette question, et notamment sur celle des GAFA, pourquoi ne parvient-on pas aujourd'hui à faire émerger des GAFA européens ?
Très difficile. D'abord, Bruno Le Maire s'exprime, ce qui est très très bien, et je m'incline, mais c'est pas le seul économiste. Donc je sais parler deux choses.
Non, je dis non, ce qu'il s'est dit ce week-end dans ces rencontres que vous avez.
Il n'est pas l'exclusive référence de notre des réflexions de ces économistes. Mais et je suis là défenseur du ces économistes et pas des intervenants.
Ça veut dire que vous voulez le contredire ? Vous voulez le contredire sur ce point-là ?
Ce sont des mots, hein, donc
C'est des mots qui veulent rien dire.
Ce sont des mots. C'est très, très sympathique, mais ce sont des mots. En réalité.
Souveraineté technologique, c'est une question qui vous intéresse, Jean-Hervé Loenzi. Donc, sur ce point, comment expliquer qu'on n'arrive pas à faire émerger des GAFA européens?
Ben d'abord parce que, à part Madame Vestager, qui avait une vision extraordinairement, j'allais dire, forte du sujet, le discours est quand même très, lénifiant sur la technologie. On est là, en regardant, c'est formidable, ils sont formidables, ils sont... Et on attend en réalité que, comme toujours, deviennent des États-Unis des initiatives. Vous voyez la sénatrice Warren, qui est une des candidates démocrates, qui s'exprime très librement sur ces sujets, et qui sait que, quoi qu'il arrive, ces 10, 20 entreprises technologiques seront un jour... Alors, on peut employer tous les mots qu'on veut, mais démanteler, c'est une évidence. Aucun État au monde ne peut accepter que se substitue une vingtaine d'entreprises, et pas que les États, les citoyens, une vingtaine d'entreprises qui ont vocation ou qui se donnent la vocation.
Il faut arrêter d'attendre. Maintenant, il faut être à l'offensive. Il faut taxer les GAFA, il faut démanteler Google.
Il faut en tout cas poser tous les sujets sans la moindre taxer. C'était pas mal fait par Mme Vestager, mais c'est évident qu'il faut absolument bouger les règles de fixation de leur taxation. Comme vous savez, ils ont toutes les techniques qui leur permettent en réalité d'être très peu taxés en Europe. Et la règle, c'est que on taxe au minimum, je crois qu'on a fixé, nous, une règle de 3% de leur chiffre d'affaires en étant conscient de des ventes qu'ils font dans les différents pays et qui permettent en réalité d'avoir une base imposable qui soit satisfaisante. Et puis, il faut pousser. On a, par exemple, je vais faire de la publicité pour personne, je suis évidemment, je n'ai aucun lien d'aucune nature, mais il se trouve qu'il y a une boîte française qui développe qui est un epsilon de concurrent de Google sans intervention sans intrusion dans la vie de ses clients. C'est une entreprise qui s'appelle Quant, on en parle beaucoup. Ce qui est exceptionnel, c'est que personne, j'allais dire, en Europe, aucun pouvoir ne pousse Quant. Mais c'est Quant, c'est après, j'espère qu'il y en aura des dizaines d'autres. En réalité, on peut toujours récupérer un retard technologique, toujours. On peut toujours le récupérer. Mais faut-il en avoir la volonté? Et objectivement, aujourd'hui, à part Mme Vestager, qui en avait la volonté, personne ne l'a.
Aujourd'hui, pour rétablir, renouer la confiance, puisqu'une fois encore, c'était le thème de ces rencontres, Jean-Hervé Loenzi, avec l'Europe et en Europe, il faut pour vous se protéger plus, introduire une dose de protectionnisme plus importante, c'est-à-dire favoriser le libre-échange, la libre concurrence au sein de l'Union européenne, mais se protéger de l'extérieur. On débat en ce moment de ces accords avec le Mercosur, le CETA également. Vous pensez qu'il faut continuer à pratiquer ce libre-échange ou au contraire recommencer à se protéger ?
Et c'est pas moi qui le pense, c'est la vie. Je veux dire, toute la rupture avec le monde tel qu'on l'a connu, avec ces espèces de discours sur le libre-échange, tout ça c'est du passé.
C'est terminé.
J'adore l'expression monde de demain, moi que je suis un vieux, et le monde du passé, le monde du futur. Évidemment que ces accords type Mercosur sont des accords du passé. Je veux dire, c'est exceptionnel que ce soit une équipe qui s'en va, qui discute depuis 20 ans, qui nous sort cet accord sans que personne n'en ait jamais entendu parler. On m'a même dit qu'au G20, notre président avait découvert le contenu de cet accord. Alors, il est bon, il est mauvais, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un avantage, c'est que c'est difficile de l'attaquer ou le critiquer. Mais je suis fondamentalement opposé, nous sommes fondamentalement opposés à l'idée que ceci ne soit pas débattu dans des conditions normales par des parlements nationaux qui donnent leur opinion. Et c'est ce que nous avons proposé pour cette solution.
Merci Jean-Hervé Lorenzi d'être passé dans ces matins d'été de France Culture, président du Cercle des économistes organisateurs des rencontres d'Aix-en-Provence ce week-end.